Au début janvier, dans le Lot, à l'Albinque, la fouille archéologique, la cellule archéologique du Lot, a trouvé un trésor. Alors, on en a parlé, mais attention, on ne rêvait pas trop quand même. Hein, c'est pas non plus le gros coffre avec toutes les pièces rutilantes, etc. C'est pas un trésor de pirate. Mais en tout cas, ça a une valeur au point de vue des connaissances de l'histoire. Et ce jour-là, il y avait Éric Labastie, archéologue, qui était avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Et puis nous avons Caroline May, qui est vice-présidente au département, au patrimoine, aux archives. Enfin, c'est un très très grand titre, mais on vous a entendu déjà pour parler de cette cellule de photographie, de cellule de recherche archéologique, Caroline. Et vous intervenez évidemment parce qu'il y a une collaboration qui se fait avec... vous allez nous expliquer qu'est-ce qui va se passer après. Alors d'abord, Éric, pourquoi il y a eu cette fouille qui était faite à l'Albinque? Qu'est-ce qu'on devait y faire d'abord à la base?
Donc effectivement, la commune de l'Albinque avait un projet d'aménagement, de réaménagement des bas-côtés et du chevet de l'église à l'extérieur pour remettre en place des espaces verts. Recréer un espace culturel en plein air avec un amphithéâtre de verdure et compagnie. Et donc dans le cadre de ces aménagements, puisqu'on était au bord de l'église et que anciennement avaient déjà été trouvées des choses archéologiquement, les services de l'État ont prescrit un diagnostic archéologique.
Alors j'imagine qu'en tant qu'archéologue, vous connaissez déjà un petit peu l'histoire de l'Albinque, ça me semble logique.
Alors effectivement, quand on fait une intervention, on essaye de prendre en compte le contexte dans lequel on va intervenir. Pas seulement le contexte technique, mais aussi le contexte historique et le contexte archéologique. Donc, et là, en l'occurrence, on est mitoyen d'une église médiévale. Donc voilà, tous les indicateurs sont au rouge pour nous alerter et nous interroger sur qu'est-ce que l'histoire de l'Albinque, et on se rend compte que effectivement le bourg de l'Albinque, le bourg médiéval de l'Albinque, est un bourg très très bien organisé, fortifié, avec des fossés, avec à chacune de ses extrémités des fortifications, un château à l'ouest, l'église à l'est, qui elle-même joue un rôle dans les fortifications. Donc voilà, et puis sur l'Albinque, on a aussi la chance au département de bénéficier du travail d'une autre cellule du département qui travaille sur le patrimoine historique et qui a lancé des inventaires importants sur le patrimoine médiéval, civil et religieux et militaire. Donc c'est un travail collectif. Il nous apporte cette matière-là, on l'analyse, on la prend en compte et on essaye de voir en fonction des découvertes que l'on fait si ce que l'on trouve peut se raccorder à ce qu'eux ont vu soit sur les bâtiments, soit en archives.
Alors, depuis tout à l'heure, on parle de trésor. Alors, est-ce que vous pouvez un peu démystifier, parce qu'on va sûrement être déçu, mais c'est quoi ce trésor?
Alors, le trésor, en fait, c'est... on a trouvé un petit pot en céramique qui fait 10 centimètres de hauteur sur 8 centimètres de diamètre. Et à l'intérieur, le petit pot était entier, non cassé. On a eu la chance de le trouver en plus à l'appel mécanique. Donc, la partie supérieure du pot a été vue suite à un passage de l'appel mécanique. Ensuite, le dégagement s'est fait manuellement. Et quand on a prélevé le pot, moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce pot était un peu lourd par rapport à sa taille, même s'il était rempli de terre. Et je pensais bien qu'il devait y avoir des choses à l'intérieur, mais on l'a prélevé, on l'a ramené au bureau et on a commencé son dégagement au bureau. Et puis là, on a vu apparaître des taches circulaires noires. Donc, quel est le matériau qui noircit? L'argent. On a vu apparaître une succession de pièces, de deniers. Certains agglomérés les uns aux autres, d'autres qui sortaient tout seuls. Et puis à un moment donné, dans le dégagement du pot, on s'est rendu compte que les parois intérieures du pot avaient des traces de de textile ou en tout cas de fibres. Donc du coup, on a arrêté, parce que là, on n'était pas compétent en la matière pour continuer à vider le pot. Et depuis, il est parti dans un laboratoire de restauration. C'est des spécialistes qui ont l'habitude de prélever ce type de matériaux, ce qu'on appelle nous des matériaux périssables. Puisque c'est des matériaux qui ne se conservent pas dans la terre, sauf en milieu humide ou en milieu très sec. Et donc là, on verra, ils vont nous apporter des indications pour savoir si c'était du textile ou si c'était des fibres, si c'était à l'intérieur du pot, en fait, les monnaies étaient à l'intérieur d'une bourse ou pas. Donc voilà. Après, c'est un pot qui contenait, malgré sa toute petite taille, qui doit contenir, puisqu'on attend maintenant le dégagement total. Nous, on a dégagé 90 monnaies. On pense qu'il y en a au moins 300 à l'intérieur.
Mais si j'écoute votre récit, Eric Labastide, ça veut dire que dedans, les pièces étaient coincées, elles étaient dans de la terre, pour que vous ne puissiez pas les dégager vous-même, si je puis dire, qu'il faille prendre tant de précautions pour ne pas abîmer ces fameuses fibres qui vont peut-être vous apporter des informations importantes.
Alors, bien sûr, le pot, en fait, c'est un dépôt de thésaurisation, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que le pot était dans un petit trou, il a été enfoui pour être thésaurisé. Dessus a été installé un sol de petites dalles calcaires. Et effectivement, au fur et à mesure du comblement du site, de l'abandon du site, la terre a recouvert et donc la terre est rentrée aussi à l'intérieur du pot et donc s'est agglomérée à l'intérieur du pot. Donc c'est pas la personne qui a enfoui le pot qui l'a rempli de terre, c'est la terre qui est venue progressivement se remplir à l'intérieur du pot au fur et à mesure des siècles. Donc voilà, il faut savoir qu'à l'époque... Le principe récurrent à l'époque, et encore jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, maintenant on fonctionne différemment parce qu'on a des engins mécaniques, mais le principe c'est quand on veut construire un endroit, on rapportait de la terre pour pouvoir reconstruire au-dessus. Et donc du coup, effectivement, la vie sur cet espace où a été trouvé ce pot est une succession de strates, de couches de terre sur lesquelles les gens ont vécu et ont tassé et compagnie. Donc la terre, progressivement, est rentrée aussi dans les différents interstices des éléments qui étaient en sous-sol.
Vous estimez à quelle date ce pot ?
Alors là, certaines monnaies étaient lisibles, donc c'est des deniers à la croix médiévale, on va dire début 13e siècle. Donc c'est des monnaies essentiellement du comté de Cahors et du comté de Rodez.
Comment il s'est retrouvé enfoui comme ça ? Parce que quand on a un pot comme ça, quand on a un pot comme ça avec de l'argent, bah moi j'ai fait gaffe quoi. Je veux dire, si j'ai mon petit pécule, comment je peux le faire en sorte qu'il se retrouve là ?
Alors très simplement, c'est-à-dire que il faut savoir que le 13e siècle et le 14e siècle, ce sont des périodes très troublées en Quercy. Il y a le début des premiers affrontements franco-anglais avec les revendications des rois anglais et des ducs d'Aquitaine sur le comté de Toulouse. Ensuite, on rentre dans la guerre de Cent Ans. L'Albinque, pendant la guerre de Cent Ans, est en très très grande partie détruite, y compris l'église. Donc les gens, ils s'enfuient. Avant de s'enfuir, ils enfouissent leurs objets les plus précieux qu'ils ne peuvent pas amener avec eux ou parce qu'ils ont peur que ça tombe dans de mauvaises mains. Et après, soit ces gens oublient, soit malheureusement décèdent. Et c'est comme ça qu'on retrouve des trésors enfouis.
Qu'est-ce que vous comptez apprendre avec cette découverte ?
Alors, qu'est-ce qu'on compte apprendre ? On compte plutôt, plus qu'apprendre, on compte en fait véritablement mettre en relation avec d'autres découvertes qui ont eu lieu dans le département, d'autres trésors qui ont été découverts dans le département. En particulier, le dernier avait été trouvé sur Gramat. À une occasion assez particulière en plus, puisque au sein du centre cynophile, ils installaient une niche et en installant la niche, ils sont tombés sur un creusement avec un trésor monétaire enfoui. Voilà, ce qu'on essaye de comprendre, c'est effectivement mettre en relation les différents trésors de même époque pour voir un peu quelles relations il peut y avoir entre les différentes communes bourgs médiévaux dans le département, mais aussi essayer de comprendre un peu l'histoire de l'Albinque et quel type de population pouvait vivre à l'Albinque. Parce que bon, c'est un trésor monétaire, certes, on appelle ça comme ça quand on fait une découverte de plusieurs pièces plusieurs monnaies, mais ce sont des pièces de la vie quotidienne. Ce sont des pièces qui n'ont pas, certes, qui permettaient à un paysan aisé ou un bourgeois aisé de fonctionner, mais qui n'étaient pas dans les mains de toute la population. Mais en même temps, ça nous permet de savoir que sur l'Albinque, il y avait une activité commerciale, une activité marchande importante.
Comment on est quand on est archéologue et qu'on trouve ça? Est-ce qu'on est déjà tout de suite comme un enfant qui découvre son cadeau à Noël? Ou est-ce qu'on arrive à prendre de la mesure et dire « Oh là, du calme, si ça se trouve, c'est pas grand-chose »
Un peu les deux. Quand on trouve le pot et qu'il est entier, en plus en diagnostic, parce que le diagnostic, nous, quand on fait des diagnostics, on est pris par le temps. On les fait de façon mécanique. On a juste une petite fenêtre sur l'histoire qui s'ouvre et au regard de ce que l'on trouve, des fois, et des structures surtout que l'on trouve, on est frustré. Une découverte d'un pot entier, c'était quelque chose, effectivement, ça fait plaisir. Et en fait, le plaisir est démultiplié quand on commence à le nettoyer au bureau, qu'on se rend compte que les lèvres intérieures sont décorées, et puis qu'on commence à le dégager et qu'on voit apparaître des monnaies. Donc là, oui, on est satisfait, oui.
Et là, il est où ce trésor actuellement? Qui est-ce qui l'examine?
Alors Toulouse, il est à Toulouse, donc dans un laboratoire de restauration, le laboratoire Materia Viva, et il va y être au moins pour, on va dire, très certainement deux à trois mois.
Caroline May, qu'est-ce qu'on en pense au département quand on se retrouve face à une découverte comme ça?
Mais nous sommes très fiers de ces découvertes et de notre équipe. Déjà, ça vous montre que nous soutenons les projets d'aménagement, notamment des communes. Là, vous voyez, c'est une commune. Un tiers des diagnostics sont effectués en bénéfice des collectivités et deux tiers pour des privés. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du travail de cette cellule.
Il y a combien d'archéologues dans cette cellule?
Alors aujourd'hui on est 8.
Oui. 8. Et sur combien de chantiers actuellement? C'est enfin fouille.
Pour le moment, la période hivernale n'est pas une période où on est énormément sur le terrain, parce que c'est souvent compliqué avec les intempéries et compagnie, même si aujourd'hui on est sous un grand ciel bleu. Là, pour le moment, il y a ce diagnostic, il y a une opération de fouille qui vient de se terminer sur Vérac, sur un aménagement du département. Il y a une opération qui va redémarrer de fouille, qui va redémarrer sur le château de Saint-Laurent, sur aussi un bâtiment du département. Après, il y a d'autres opérations qui vont démarrer. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on a une opération de terrain, derrière, nous, on a un temps important de réflexion et de production de nos rapports. Parce que, en fait, le diagnostic, c'est comme une évaluation, c'est le document que nous allons produire, c'est ce document qui va être utilisé par l'État pour définir si il doit y avoir fouille ou si l'aménagement doit être modifié ou pas. Donc pour cela, il nous faut du temps. On a toutes les photos à archiver, à décrire. On a toutes les coupes à reprendre. On a l'analyse aussi à faire, les inventaires d'objets trouvés, de ce qu'on appelle du mobilier archéologique à produire. Généralement, entre la période de terrain qui est, on va dire, sur un temps, si on prend par exemple 10 jours de terrain, nous derrière, on a 3 fois plus de temps de rapport pour faire le rapport. Quoi. Ouais.
Effectivement, on comprend que derrière, il y a tout le travail pour les analyses et puis qu'il reste des traces écrites, en tout cas. Dernière question, Caroline May. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une période où l'histoire reprend de plus en plus son importance, et notamment quand on remonte, et en plus dans le Lot, on a de la chance quand même, on est dans un endroit très, très lourd en passé.
Oui, le patrimoine, c'est notre richesse hein, dans le département du Lot. Et c'est vrai qu'il y a un engouement à ce sujet, notamment depuis peut-être la période du confinement où les gens se sont intéressés à la découverte de leur patrimoine par le biais bien sûr d'Internet puisque c'était le seul moyen un peu de communiquer. C'est pour ça que nous axons notre future action sur la médiation et le porter à connaissance de nos recherches, de notre patrimoine, parce que les gens ont besoin de connaître leur histoire.
Merci Caroline May de m'avoir accueilli et merci à Eric Labastide de nous avoir raconté tout cela.